journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est à la une le risque de l'embrasement en Corse, une semaine après l'agression d'Ivan Colonna. Les manifestations ont de nouveau dégénéré hier soir. Départ de feu dans le palais de justice d'Ajaccio. Le récit de la nuit dans un instant. 15 jours de guerre en Ukraine. Les Européens vont plancher aujourd'hui à Versailles sur leur riposte économique et énergétique. Mais c'est en Turquie que se joue une éventuelle solution diplomatique. Russes et Ukrainiens se retrouvent à Antalya. Explication à suivre. Nous serons aussi en Ukraine, dans ces zones déjà contrôlées par les Russes où la résistance civile s'organise. Dans ce journal également, Pécresse-Zemmour, débat télévisé ce soir, les deux candidats jouent gros, et le nouveau roman de Joël Dicker. Pour l'occasion, l'écrivain suisse a créé sa propre maison d'édition.
Et avec Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui la candidate PS à l'élection présidentielle, également maire de Paris, Anne Hidalgo. La Corse va-t-elle retomber, Alexis, dans un nouveau cycle de violence ?
8 jours maintenant après l'agression d'Ivan Colonna en prison, la colère s'amplifie chaque jour un peu plus sur l'île et un palier vient d'être franchi lors de nouveaux rassemblements. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Des manifestants se sont introduits hier soir dans le palais de justice d'Ajaccio.
Oui, vers 23h15, un groupe de manifestants enflamme rames de papier et déchets dans le hall du tribunal à l'extérieur, façade noircie. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie. 2 interpellations. Les manifestants s'en sont également pris à une agence bancaire avant de se diriger vers la place Claude Erignac. Denis Luciani, membre d'une association de parents, a évité que des jeunes ne s'en prennent à l'olivier planté pour les 20 ans de l'assassinat du préfet. Il est au micro de France Bleu RCFM.
Je dis qu'ils avaient à se comporter comme des patriotes, que l'ennemi à combattre était là-bas et qu'on ne profanait pas qu'on ne souillait pas des plaques. Ça aurait été quelque chose d'infamant qui salit toute la mobilisation qu'il y a eu ces derniers jours.
Bilan de la soirée, 15 de blessés à Ajaccio. À Bastia, affrontement tendu là aussi. Cocktail Molotov, bombes agricoles, détaille la préfecture dans un communiqué. Contre gaz lacrymogène et tirs de LBD, 23 CRS blessés. Enfin, à Calvi, c'est la sous-préfecture qui a été visée. Les autorités plaident pour l'apaisement et le dialogue, tout comme la sœur d'Ivan Colonna dans une lettre publiée hier, appelant au calme, à la lucidité, à ne pas tomber dans le piège tendu par les autorités.
Oui, appel au calme alors que certains partis nationalistes sont en train d'organiser une manifestation unitaire pour dimanche à Bastia. Merci Delphine Evenou.
Il est 7h32, 2 jours, Alexis, pour rendre l'Europe plus puissante.
Le défi est ambitieux pour les 27 dirigeants de l'Union européenne. Ils se retrouvent cet après-midi à Versailles pour un sommet pas comme les autres, en pleine guerre aux portes de l'UE. Comment rendre l'Europe moins dépendante du gaz et du pétrole russe à défaut d'un embargo ? Ce sera l'un des sujets sur la table en pleine crise énergétique, avec déjà cette conséquence concrète sur la vie quotidienne des Européens, la flambée des prix du carburant. Le gasoil rattrape l'essence à plus d'1,80€, c'est du jamais vu. Et pour certaines professions, c'est d'ores et déjà un problème. Mélanie Juvé l'a constaté en région toulousaine.
Pour Nadine Ménary, infirmière libérale en banlieue toulousaine, le budget gasoil est devenu énorme. Elle fait une centaine de kilomètres par jour.
J'en ai pour 500€ d'essence par mois. On nous paye 2,50€ du déplacement. Nous sommes vraiment les oubliés.
Un forfait de déplacement qui atteint presque le prix du litre de gasoil. Résultat, Nadine a dû arrêter une partie de son activité.
Tous les petits soins auxquels on doit faire des kilomètres, tout ce qui est prise de sang, moi j'ai arrêté.
À l'association d'aide à domicile en milieu rural, près de Montauban, à 1 heure au nord de Toulouse, Mélanie Lequin utilise pour l'instant encore sa voiture personnelle pour travailler et son pouvoir d'achat en pâtit.
Ben, je suis en zone rurale, donc je vais moins en ville qu'avant. On s'achète moins de choses, on fait moins de sorties.
Dans un secteur des gens manquent de bras, cette flambée des prix complique encore plus les recrutements, explique Julien Maillet, vice-président de l'Union nationale de l'aide, soins et accompagnement à domicile.
On a, lors des entretiens d'embauche, des salariés qui demandent à combien est défrayé le kilomètre. Les indemnités kilométriques au niveau national sont remboursées à hauteur de 35 centimes d'euros le kilomètre. Et quand on leur annonce le tarif, eh bien, elles renoncent au poste.
Pour lui, le gouvernement doit distribuer notamment des chèques carburant, tandis que beaucoup d'infirmières et aides à domicile réclament plutôt de rehausser les indemnités kilométriques.
L'énergie au menu du sommet de Versailles, mais ce n'est pas le seul sujet, loin de là. Les 27 vont tenter d'ébaucher aussi une Europe de la défense. Il faudra également se prononcer sur les demandes d'adhésion à l'UE déposées par l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Mais les yeux seront aussi tournés aujourd'hui vers la Turquie. Les chefs des diplomaties russes et ukrainiennes se retrouvent à Antalya dans quelques heures. Première rencontre à ce niveau depuis le début de la guerre, après quelques timides inflexions de part et d'autre ces dernières heures. Le président turc est à la manœuvre. l'œuvre. Erdogan veut jouer les médiateurs dans cette crise à Nandlower.
Avant même que Vladimir Poutine ne lance l'armée russe à l'assaut de l'Ukraine, la diplomatie turque s'activait déjà depuis des semaines pour réunir Sergueï Lavrov et Dmytro Kouleba en marge du forum annuel de la diplomatie à Antalya. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, qui participera aux échanges entre ses homologues, a dit souhaiter que la rencontre marque un tournant vers la paix. Le mot « médiation » n'est pas prononcé pour ce rendez-vous d'Antalya, mais c'est bien l'intention des autorités turques. Le pays s'estime bien placé pour jouer les conciliateurs en raison de ses bonnes relations avec les deux belligérants, mais aussi de sa position depuis le début de la guerre qui consiste à naviguer dans une sorte d'entre-deux. D'un côté, la Turquie est membre de l'OTAN, proche de l'Ukraine, à laquelle elle a vendu des drones armés et qu'elle soutient sans équivoque face à l'attaque russe. De l'autre, Ankara a noué des relations économiques, énergétiques et sécuritaires étroites avec Moscou et refuse de lui infliger des sanctions, non seulement pour maintenir le dialogue, mais aussi pour préserver au maximum la fragile économie turque qui souffre déjà d'une inflation record de plus de 50% sur un an. À Nandlower, Istanbul, RFI pour France Inter.
Une nouvelle tentative diplomatique en Turquie, mais sur le terrain, deux semaines tout juste après le début de cette guerre, aucun signe d'apaisement. Les troupes russes ne sont plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev et le président ukrainien Zelensky dénonce un crime de guerre après le bombardement d'un hôpital pour enfants et d'une maternité à Mariupol. 17 adultes ont été blessés. Mariupol, grand port du sud, assiégé, quasi coupé du monde. Les combats qui s'y déroulent ont déjà fait plus de 1200 morts, selon le maire. Dans ces régions, déjà contrôlées par les Russes, au sud, à l'est, les manifestations sont quotidiennes. Des habitants qui refusent de subir l'occupation, comme l'a constaté Franck Madvon, envoyé spécial de France Inter en Ukraine.
Ici, des manifestants entonnent l'hymne ukrainien. Là, des habitants défilent dans le centre-ville pour appeler les Russes à déguerpir. Les images abondent sur les réseaux sociaux, à Kherson, Mélitopol et dans bien d'autres villes du sud du pays. Des rassemblements se tiennent chaque jour. Igor vit à Berdiansk, un port rapidement conquis par les Russes.
Les gens sortent souvent manifester, c'était encore le cas aujourd'hui. J'ai vu ça de mes propres yeux, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont enthousiastes, ils ont le moral, et les gens restent unis face à l'occupation.
Berdiansk, c'est l'Ukraine, crient ici les manifestants qui dénoncent également les contraintes imposées par les Russes.
Ils ont coupé la télévision. Nous n'avons pas non plus de gaz, donc pas de chauffage. On a juste l'électricité. Il n'y aura bientôt plus de nourriture. Les magasins, les entrepôts se vident. Je ne sais pas où ça va aller, mais il faut que tout ça se termine.
D'après d'autres habitants de ces régions, joints au téléphone, les pénuries alimentaires pourraient même provoquer des émeutes dans les jours à venir. À Vinnytsia, Jérémy Thuil, Franck Madvon, France Inter.
L'Ukraine que les États-Unis s'apprêtent à aider massivement, 14 milliards de dollars, c'est le montant gigantesque de l'enveloppe votée cette nuit par la Chambre des représentants à Washington. En France, face à cette guerre qui occulte tout le reste, les candidats à la présidentielle ont bien du mal à exister. Deux d'entre eux vont tenter ce soir de relancer leur campagne. Valérie Pécresse et Éric Zemmour, face à face pendant plus d'une heure sur TF1 et LCI. Ces deux-là jouent gros à un mois tout juste du premier tour, Anne Souhaitemont.
En pleine débandade dans les sondages, qui la place parfois à la cinquième place, Valérie Pécresse a donc décidé de prendre son risque en débattant avec Éric Zemmour. Fini le match avec Macron, depuis quelques jours, elle décoche ses flèches contre l'ancien journaliste affaibli par la guerre en Ukraine. Ce soir, elle espère enfoncer le clou. Otman Nasrou est son porte-parole.
L'objectif, il est de démasquer Éric Zemmour. On a vu ses ambiguïtés sur la Russie, sur son alignement, sur Vladimir Poutine, sa misogynie. Et il faut qu'on voit aussi ses ambiguïtés sur tous les sujets qui font qu'il n'est pas en capacité ni de gagner, ni de diriger le pays. J'espère que ça va être un tournant de la campagne, bien sûr.
Un tournant, mais dans quel sens? Valérie Pécresse peut-elle inverser la tendance? Roulette russe, craignent certains, soit ça nous donne une bouffée d'oxygène, soit c'est le plantage, prévient un haut responsable LR. Même enjeu pour un Éric Zemmour, lui aussi en perte de vitesse, Stanislas Rigaud est son porte-parole.
C'est un moment important, c'est le premier débat entre guillemets à droite.
Draguer les électeurs de droite, rattraper les sceptiques, ce soir Éric Zemmour va tenter de se crédibiliser, de se présidentialiser, doux sur la forme, mais intraitable sur le fond, croit savoir son entourage. Depuis quelques jours, les deux candidats ont allégé leur agenda, se préparent en toute discrétion, pas question de donner le moindre indice à l'adversaire du moment.
Il était il y a quelques jours encore à la tête de l'influent Institut Montaigne. Laurent Bigorgne comparaît aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. L'économiste doit y être jugé pour avoir drogué une collaboratrice à son insu lors d'une soirée le mois dernier. Mais le motif sexuel n'a pas été retenu, ce que dénonce la plaignante.
7h39, il sort aujourd'hui et on peut déjà parier sur un succès de librairie.
Le nouveau roman de Joël Dicker, qui collectionne les best-sellers. Voilà donc l'affaire Alaska Sanders. On y retrouve le personnage de l'écrivain Marcus Goldman, qui une nouvelle fois mène l'enquête sur un meurtre survenu des années auparavant. Mais la nouveauté est ailleurs. Ilana Mor-Youssef, c'est le premier livre que Dicker publie avec sa propre maison d'édition.
Il est habitué au succès, mais c'est la première fois que Joël Dicker est à la fois l'auteur et l'éditeur du livre qu'il défend. Après la mort de son premier éditeur, Bernard de Fallois, en 2018, créer sa propre maison lui est apparu le seul chemin possible.
Bernard était mon éditeur, était celui à qui je dois le succès de mes livres, par fidélité et en hommage à tout ce qu'il avait fait pour moi. Je n'avais pas envie qu'il y ait quelqu'un d'autre après lui.
On retrouve dans l'affaire Alaska Sanders tous les ingrédients qui ont fait le succès de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Le meurtre mal élucidé d'une jeune et jolie fille, un écrivain qui enquête, une petite ville tranquille des États-Unis et surtout un sens diabolique de l'intrigue.
Je me rattache un peu à la tradition orale. Ces livres, bien que des romans, bien que des livres écrits, sont une narration orale d'un jeune homme, Marcus Goldman, qui vous raconte une histoire en vous disant « voilà, il m'est arrivé une aventure ». Installez-vous confortablement, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il y a eu un meurtre, une jeune femme a été tuée, j'ai enquêté. Et il y a une promesse qui est faite au lecteur, celle de lui dévoiler les tenants et les aboutissants d'une enquête qui me permettent à moi de raconter des histoires de vie.
On dira que certaines situations du roman sont quelquefois peu crédibles, mais ça marche quand même. Absorbé par la lecture, on oublie de descendre à la bonne station de métro.
L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Donc ça marche. Hein. C'est aux éditions Rosie et Wolf. Et puis de l'optimisme serein à la crise ouverte, le PSG est passé de l'un à l'autre en quelques minutes hier soir. Les Parisiens éliminés de la Ligue des Champions de foot dès les huitièmes de finale, battu 3-1 au match retour par le Real, triplé de Benzema. La remontada bis repetita.
Merci Alexis Morel. L'édito politique.